Teolis, la radio déconnectée, à Lomé, au Togo. Radio Teolis, la radio déconnectée, à Lomé, au Togo.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio Teolis. C'est Vincent Lequen qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette troisième édition de notre émission Le Monde tel qu'il est, qui a pour modeste ambition de vous éclairer, de vous faire apprendre quelques petites choses en matière de géopolitique, en matière de conduite des affaires du monde. Aujourd'hui, je vous propose, comme les précédentes fois, deux sujets qui seront répartis sur les deux moments de l'émission. Le premier sujet que je vous propose aujourd'hui traitera de l'énergie nucléaire et replacée dans sa réalité géopolitique, puisque nous le savons, les pays ont des stratégies différentes en matière de recours à l'énergie, de production d'énergie. C'est donc tout l'intérêt de traiter ce sujet. Enfin, le deuxième sujet, je reviendrai sur l'élection présidentielle et législative d'ailleurs qui a eu lieu à Taïwan le dimanche 13 janvier. Nous avions consacré une partie de la première émission sur ce sujet-là, où vous avez expliqué les tenants et aboutissants, les enjeux géopolitiques que pouvait contenir cette élection. Là, elle a eu lieu, donc les résultats ont été publiés. De nombreux médias, d'ailleurs, en ont fait le rapport. Et ça me semblait tout à fait pertinent de vous informer des résultats et, en fonction des résultats, donc la confirmation ou non des enjeux que nous avions évoqués. Comme pour les précédents numéros, ce ne sera pas toujours le cas, mais c'est le cas déjà depuis trois numéros, nous appuierons pour traiter de ce sujet sur les travaux qu'ont réalisés trois de mes étudiants à l'école de management de Normandie, dans laquelle j'enseigne, entre autres, la matière de la géopolitique. Voilà, nous allons pouvoir démarrer sur cette première partie avec une présentation déjà introductive de la problématique du nucléaire. Alors, l'énergie nucléaire, pour rappel, toujours un petit peu un rappel historique pour démarrer, l'énergie nucléaire a été découverte à Berlin en 1938 par Lise Meitner, Otto Hahn et Fritz Strassmann. En raison de la Seconde Guerre mondiale et des enjeux militaires, le processus nucléaire a commencé. En relation avec cela, la fabrication d'armes nucléaires et de bombes a débuté et la découverte de l'énergie nucléaire a également commencé à être explorée pour une utilisation future et démilitarisée. Début 1951, on a réussi à produire de l'électricité pour environ 4 ampoules en utilisant l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire est décrite comme le noyau d'un atome. On ne va pas faire un cours de physique chimie hein, ici, ou de physique en l'espèce, mais il faut quand même rappeler de quoi on parle. Donc, l'énergie nucléaire est décrite comme le noyau d'un atome utilisé pour créer de l'électricité pour une société, généralement sous forme de centrale nucléaire. Pour produire de l'électricité, elle doit être libérée de l'atome. Il s'agit d'une méthode efficace utilisée dans le monde entier pour produire de l'électricité sans émission de dioxyde de carbone. Selon les informations à notre disposition et que l'on peut retrouver sous différentes sources, l'énergie nucléaire a été créée en relation avec la Seconde Guerre mondiale. On l'a déjà évoqué, son objectif était militaire au départ, et donc dans un but négatif, étant donné que l'intention était de fabriquer une bombe qui aurait des conséquences très dangereuses, évidemment, pendant la guerre. Certains diront dissuasive, néanmoins. La ville d'Hiroshima au Japon, qui est également appelé un des plus grands événements de l'histoire, a montré à quel point la puissance de la bombe atomique était efficace, comme tout pouvait être détruit dans un... étant donné que tout pouvait être détruit dans un rayon assez large, et y compris avec une persistance de la radiation, des aspects radioactifs dans la région pendant une période assez longue par la suite. Il y a néanmoins eu des survivants, mais qui sont malheureusement décédés rapidement après l'explosion, la plupart dus à des cancers ou dus à eux-mêmes à de fortes radiations. Par la suite, un autre événement a également affecté l'avenir de l'énergie nucléaire, c'est l'incident bien sûr de Tchernobyl. À Tchernobyl, pour rappel, l'incident, il s'agissait d'un panneau d'énergie nucléaire qui a explosé, provoquant à son tour une grande explosion libérant une radiation des radiations fortement radioactives. C'est un accident qui s'est produit en raison d'une conception défectueuse du réacteur, et c'est un incident qui était le premier dans l'histoire et jusqu'à présent il est resté, heureusement pour nous tous, le plus important incident dû à l'énergie nucléaire. Aujourd'hui, si on veut parler à présent de la situation en ce premier quart de 21e siècle au regard de l'énergie nucléaire, c'est un sujet néanmoins toujours d'actualité qui est un sujet courant dans le monde entier, en particulier dans les contextes politiques. Les pays du monde entier utilisent des quantités variables d'énergie nucléaire. Alors, c'est pas tout à fait vrai pour ce qui est de tous les pays du monde entier, malheureusement. Mais en tout cas, il y a une variabilité dans l'utilisation de l'énergie nucléaire pour produire de l'électricité. Par exemple, en 2003, en Suède, pour parler de l'un des pays de mes étudiants, 40% de la production électrique provenait de l'énergie nucléaire. Et dans beaucoup de pays, en particulier en Europe, mais pas que, mais en Europe où il y a une part importante de l'énergie qui est produite par le nucléaire, on discute selon les pays, il y a beaucoup de divergences selon les pays, on discute de la pertinence de l'énergie nucléaire pour l'environnement, de son efficacité ou de son lien uniquement négatif en relation avec l'usage militaire du nucléaire. C'est aussi un aspect des équilibres de pouvoir entre les pays dans la géopolitique mondiale, entre ceux qui utilisent ou non l'énergie nucléaire. Par exemple, si on prend un pays proche de la France, l'Allemagne a choisi de fermer toutes ses centrales nucléaires en raison de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique en Europe. Ils ont plutôt choisi de se concentrer l'énergie renouvelable, quand bien même, aujourd'hui, cette part des énergies renouvelables est notoirement insuffisante encore pour couvrir l'ensemble des besoins en énergie d'un pays comme l'Allemagne. Et de fait, l'Allemagne continue de produire beaucoup d'énergie à travers des solutions qui sont malheureusement peu positives pour l'environnement, comme le charbon par exemple. Cette peur du nucléaire, elle est surtout survenue après la catastrophe de Tchernobyl, mais elle existait déjà depuis la constitution du nucléaire dans les années 60-70, avec en Allemagne particulièrement une forte opposition des écologistes. Mais enfin, il faut reconnaître que c'est la catastrophe de Tchernobyl qui a engendré beaucoup de spéculations sur la sécurité réelle de l'énergie nucléaire. Avant cet événement, il était difficile de connaître les risques, qui étaient purement théoriques, car il y avait eu très très peu d'incidents, en tout cas un retentissement public jusqu'alors. Bon, évidemment, cet incident de Tchernobyl a permis de documenter et d'avoir une meilleure compréhension de connaissances sur le sujet de la sécurité. La sécurité qui entoure l'énergie nucléaire est beaucoup plus grande, avec des contrôles de sécurité extrêmement forts dans la zone où elle est située. Et il y a également des vérifications de menaces externes et des installations qui peuvent à leur tour être affectées. Alors, quel est l'avenir maintenant de l'énergie nucléaire, avant de laisser la parole aux interviews de nos étudiants? En ce qui concerne la production d'énergie nucléaire, il existe un désaccord sur la manière dont on affectera l'avenir de la planète. Peu de pays sont en ligne avec les uns avec les autres. La quantité d'énergie produite par l'énergie nucléaire est déterminante pour la production d'électricité, en particulier lorsque les énergies fossiles, comme le pétrole, le charbon, etc., vont se raréfier ou en tout cas sont très coûteuses en période de conflit comme c'est le cas actuellement entre la Russie et l'Ukraine. Par ailleurs, il y a de fortes divergences également sur l'impact que peut avoir l'énergie nucléaire sur notre environnement. Certains considèrent que cet impact est relativement important, en particulier en termes de consommation élevée d'eau, des maladies dues aux radiations qui sont mal connues, des maladies professionnelles pour ceux qui travaillent dans les centrales nucléaires, et puis en particulier dans tout ce qui est gestion des déchets, car les centrales nucléaires, il faut le rappeler, actuelles, dans leur conception actuelle, produisent des déchets une fois qu'on a utilisé l'uranium et qui n'est plus... Et usé, j'allais dire, l'uranium qu'on a utilisé, il faut malheureusement l'enterrer et ces déchets ne disparaissent pas rapidement, ils restent longtemps actifs. Ce ne sera pas le cas des centrales qu'on va appeler de deuxième génération qui, elles, ne consommeront à des ressources de type uranium ad vitam, sans produire de déchets, ou en tout cas peu, mais ces centrales, dont la conception aura été très très coûteuse, ne sont pas en fonctionnement pour le moment, et donc on est toujours sur des centrales de première génération. A l'inverse, d'autres considèrent donc que l'énergie nucléaire est une énergie très propre, relativement à d'autres, en particulier les énergies fossiles qui sont utilisées. Alors certes, et certes, elles sont, l'énergie nucléaire est moins propre évidemment que le sont les énergies renouvelables, mais celles-ci, énergies renouvelables, sont encore très largement sous-développées et ne sont pas du tout en mesure de couvrir les besoins croissants en énergie des populations dans le monde. Évidemment, on en est très 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 loin, même si c'est l'avenir et que c'est la meilleure solution. Donc, les pro-nucléaires, qu'on va retrouver en France, par exemple, en majorité, aujourd'hui, considèrent que, nonobstant les incidents, et il y en a eu, mais très peu quand même, si on regarde bien sur les 50 dernières années d'existence de ces centrales, nonobstant donc ces incidents, reste une énergie très propre, puisqu'elle produit beaucoup moins de CO2 que les énergies fossiles, par exemple. En conclusion de cette petite introduction, en tout cas, avant de passer la main à nos étudiants pour qu'ils nous éclairent un peu plus en détail sur leurs travaux, cette introduction montre que l'énergie nucléaire a évolué au fil du temps. Les progrès en matière de sécurité sont clairs et avérés, et la connaissance du fonctionnement des centrales, en particulier suite aux incidents survenus à Tchernobyl, sont nettement améliorés. Voilà, ce qui ne signifie pas que l'avenir passera par les énergies plutôt renouvelables et le recyclage des eaux usées et d'essayer de produire beaucoup moins de déchets radioactifs concernant ces centrales. Voilà, nous allons à présent, je l'ai dit et je le répète, laisser la parole à nos étudiants, en l'espèce Isabelle et Julia, qui nous viennent toutes les deux de Suède. Bonjour Julien. Selon toi, quel est le rapport des différents pays à l'énergie nucléaire?
Every country uses different amounts of nuclear power to produce electricity. For example, in the United States, nuclear power stands for 20% of the electricity production. In Germany, they have chosen to shut down all the nuclear energy due to the energy crisis in Europe.
So, Isabelle, what would happen
à présent, bonjour Isabelle. Selon toi, que pourrait-il arriver si des pays mal intentionnés obtenaient le nucléaire comme et utilisaient le nucléaire comme une arme?
It could have devastating consequences since the impact is so big of a nuclear bomb. Some of the people say that they shouldn't.
Cela pourrait avoir des conséquences dévastatrices étant donné l'ampleur de l'impact d'une bombe nucléaire. Certains disent qu'ils ne devraient pas utiliser d'armes nucléaires, car s'ils savent comment produire de l'énergie à partir du nucléaire, ils pourraient tout aussi bien fabriquer une arme nucléaire. Par exemple, la Corée du Nord a parlé de fabriquer des armes nucléaires, mais cela est interdit afin que d'autres pays comme les États-Unis les surveillent afin qu'ils ne fabriquent pas d'armes nucléaires. Une seule arme nucléaire peut détruire une ville et tuer la plupart de ses habitants. Plusieurs explosions nucléaires au-dessus des villes modernes tueraient des dizaines de millions de personnes. Les victimes d'une guerre nucléaire majeure entre les États-Unis et la Russie s'élèveraient à des dizaines de millions. À long terme, les armes nucléaires produisent des rayonnements ionisants qui tuent ou rendent malades les personnes qui y sont exposées, contaminent l'environnement ou ont des conséquences à long terme sur la santé, notamment le cancer et des dommages génétiques. Leur utilisation généralisée dans les essais atmosphériques a eu de graves conséquences à long terme.
Joseph, did people know the risk before
Joseph,
the
à présent,
accident?
Bonjour. Penses-tu que les peuples, que les gens connaissaient, avaient conscience des risques nucléaires avant que ne survienne le dramatique accident de Tchernobyl?
People knew about the risk. But they kind of ignore them.
Les gens connaissaient les risques, mais ils les ignoraient en quelque sorte. Ils laissaient travailler du personnel non qualifié dans l'énergie nucléaire. Et si vous avez une longueur d'avance, lorsque vous travaillez avec des choses dangereuses, il est important d'avoir des personnes qualifiées dont vous savez qu'elles peuvent les gérer. L'énergie nucléaire d'aujourd'hui est soumise à des contrôles de sécurité dans ces zones, ainsi qu'à des contrôles des menaces externes pesant sur les matériaux, les installations qui affectent l'énergie nucléaire.
So, Julia,
Julia, comment ont évolué ou pas les processus de sécurité depuis l'accident de Tchernobyl?
After the disaster in Chernobyl, it's speculated how safe the nuclear power really is.
Il a été fortement prouvé qu'il s'agit d'une méthode sûre pour produire de l'électricité. Avant Tchernobyl, il était difficile de mesurer les risques liés au nucléaire, car aucun événement antérieur ne s'était produit. Mais à l'heure actuelle, nous disposons de beaucoup plus de connaissances à ce sujet. L'énergie nucléaire d'aujourd'hui est soumise à des contrôles de sécurité dans les domaines et contre les menaces externes pesant sur les matériaux et les installations qui affectent l'énergie nucléaire.
So, Joseph, now why
Joseph, peux-tu nous expliquer en quoi et pourquoi l'eau est un élément aussi très important pour la production d'énergie nucléaire?
The principle of nuclear energy is fission, reaction of atoms that produces heat energy produced in the core of the reactor.
Le principe de l'énergie nucléaire est la réaction de fission des atomes, qui produit de l'énergie thermique produite au cœur du réacteur. Or, cette énergie doit être transportée et refroidie par de l'eau. Le processus de refroidissement est essentiellement le brouillard que nous voyons et imaginons au-dessus de la plupart des centrales nucléaires. 15% utilisent des lacs et 14% utilisent des rivières, selon laquelle est la plus proche.
So, last question.
Nous voici arrivés à la dernière question de cette interview. Joseph, peux-tu nous dire quelles sont les préoccupations environnementales qui sont liées directement à l'utilisation de l'énergie nucléaire?
There are two main concerns. On the one hand, we use
Il y a deux préoccupations principales. D'une part, l'utilisation de l'eau dans les processus nucléaires, qui peut faire monter un peu la température. Mais à l'inverse de ce qu'on en pense, elle ne pollue pas l'eau. L'eau sert uniquement à rafraîchir les réacteurs et n'a aucun contact avec les déchets radioactifs. D'autre part, les déchets nucléaires générés par la production sont mortels pour l'homme et n'existe pas encore de moyens fiables de les éliminer.
Eh bien, voilà le travail qui a été réalisé par mes étudiants. Je remercie Isabelle, Mathias, Julia, Joseph. Les dames étaient suédoises et les garçons français. Et on peut les remercier pour ce travail sur le nucléaire. Je remercie également mes doubleurs français que sont Thierry Bicanet et Rémi Lequen. Alors évidemment, en conclusion de ce petit travail, il est évident que la géopolitique du nucléaire, c'est un domaine complexe et qui est en constante évolution. On l'aura compris à l'écoute des travaux réalisés. Cette géopolitique du nucléaire, elle est également influencée par de nombreux facteurs qui ont été cités, mais qu'on peut résumer avec en citant les progrès technologiques, les changements géopolitiques et puis les préoccupations en matière de sécurité. Enfin, on peut dire également que, évidemment, on est sur deux thèmes adjacents que sont la sécurité, le militaire, le pouvoir qu'on peut tirer de la possession des technologies nucléaires, et puis la problématique qui est apparue depuis essentiellement la guerre entre la Russie et l'Ukraine en matière de production d'énergie suite à l'augmentation forte des coûts de l'énergie fossile. Voilà. C'est donc aussi une problématique, on l'aura bien compris, environnemental. Donc c'est un sujet qui est au carrefour de beaucoup de préoccupations dans le monde entier. Voilà, nous allons faire une petite pause comme d'habitude, à la suite de quoi, comme je vous l'ai indiqué en début d'émission, nous traiterons d'un sujet pas nouveau car nous l'avons déjà traité au moment de la première émission, mais il s'agit des présidentielles taïwanaises. Nous avions évoqué les enjeux les enjeux géopolitiques de cette élection. Là, elle a eu lieu le dimanche 13 janvier, nous en connaissons les résultats et c'était intéressant d'y revenir, de revoir ces enjeux maintenant qu'on connaît le résultat et vérifier que ce que les analystes avaient évoqué se réalise ou pas, et s'il y a de nouveaux enjeux, nouveaux risques qui apparaissent suite à la décision des électeurs taïwanais. Je vous souhaite une belle pause et à tout de suite, ne quittez pas Radio Télis. Nous sommes de retour dans quelques minutes.
Radio Théolis, la radio déconnectée, à Lomé, au Togo. Radio Théolis, la radio déconnectée, à Lomé, au Togo.
Nous nous retrouvons pour, après cette petite pause, toujours au sein de notre émission Le Monde tel qu'il est sur Radio Théolis. Comme je l'ai indiqué en introduction de cette émission aujourd'hui, je souhaitais revenir sur l'élection de Taïwan à laquelle nous avons consacré le premier épisode de notre émission, il y a deux semaines donc, et sachant que cette élection présidentielle a connu son résultat donc ce dimanche 13 janvier. Voilà, les bureaux de vote ayant fermé à 16h. Donc je souhaitais revenir sur ce sujet parce que, comme on l'a expliqué longuement, et on ne va pas revenir sur ce qu'on a déjà dit, mais cette élection est à fort enjeu. Elle a donc eu une exposition médiatique dans les grands médias du monde entier, très importante, car son résultat et l'exploitation qui en est faite par les grandes puissances du monde sont intéressants à lire au regard de la géopolitique mondiale. Avant de faire lecture des résultats officiels, il faut rappeler qu'il y avait trois candidats, les trois principaux candidats à se présenter. Le premier était William Lei Shin-tae du Parti démocrate progressiste, le DPP, qui était au pouvoir jusqu'alors. Depuis deux élections, il se présentait pour une troisième élection. Le deuxième parti historique est le Kuomintang avec Hu Yui, et puis le Parti populaire taïwanais, un petit parti également représenté, que représentait Ko Wan-jae. Voilà. Juste une petite précision, mais qui peut être intéressante pour un certain nombre de pays en termes d'organisation d'élections. C'est assez simple du côté de Taïwan, parce que d'abord, c'est une élection organisée de façon numérique, où les gens votent, on fait un vote électronique, donc avec des résultats qui sont promulgués très rapidement. Ensuite de quoi, chaque parti est identifié par une couleur, très simplement. Le DPP, la couleur verte, le Kuomintang, la couleur bleue, et le Parti populaire taïwanais, la couleur blanche. Voilà. Alors, vous l'avez peut-être vu dans les médias, donc le gagnant de cette élection, c'est le parti en place actuellement, le Parti démocrate progressiste, qui est le parti qui est le moins penché vers la Chine, qui a obtenu 40,1% des résultats, ce qui est... Beaucoup moins important, assez moins important que la précédente élection où ils avaient obtenu 57% des suffrages. Ensuite, le Kuomintang qui a obtenu 33,2%. Donc le Kuomintang, pour rappel de tout ce qu'on a dit il y a deux semaines, c'est le parti qui, sans être pro-chinois, reste le parti qui... était le plus penché vers la Chine au sens d'un éventuel partenariat, mais certainement pas d'une fusion avec la Chine. Ça, aucun des trois partis ne le préconise. Donc c'est une déception, ce résultat de 33,2% pour le Kuomintang, puisqu'il n'a pas réussi à contrer un troisième mandat pour le Parti démocrate progressiste. Enfin, le Petit Parti populaire taïwanais a quand même obtenu 25,3% des voix. Donc on voit que c'est un résultat assez clair où il y a à peu près 10 points en moyenne qui séparent chacun des... Enfin, 8 points qui séparent chacun des candidats. Donc les résultats ne sont pas extrêmement ténus. Voilà. Alors les raisons de ces résultats, en tout cas tels qu'on peut en lire les analyses... Au travers des médias. C'est la résultante du fait que les Taïwanais se sentent quand même très Taïwanais, beaucoup plus que Chinois, qu'ils ont vu l'exemple de Hong Kong qui leur a montré que le principe dicté par... Autrefois un pays, deux systèmes, en fait dans la réalité s'est transformé en un pays, un système et le système chinois qui a été imposé aux Hongkongais malgré leur résistance, et donc cela a beaucoup refroidi les Taïwanais dans l'idée de favoriser un parti, le Kuomintang en l'espèce, qui serait pro-rapprochement avec la Chine. Voilà, ça c'est une raison. Et on le voit dans un certain nombre de sondages qui ont été réalisés à Taïwan. Si plus de 90% des habitants de l'île sont des descendants de Chinois, évidemment, qui ont migré durant les derniers siècles, plus de 62% de ces personnes s'identifient aujourd'hui uniquement comme Taïwanais, alors qu'ils étaient 17% en 92. Donc on voit, c'est une progression très très importante du sentiment taïwanais, de l'appartenance à Taïwan et d'une différence avec la Chine. 30,5% se voient comme taïwanais et chinois contre 46%. Donc on voit là aussi une explication clairement. Enfin, ça confirme cette explication. Voilà. Donc cette élection, malgré la perte de points du DPP, montre qu'il y a peu de. Finalement, c'est assez stable en termes de sentiments de la population taïwanaise quant au ressenti vis-à-vis de son grand voisin qui n'est séparé, rappelons-le, hein, le Détroit mesure 180 km, qui est quand même évidemment très très peu. Alors, le seul point positif que pourrait en retirer la Chine, c'est que au-delà de cette élection présidentielle, il faut dire que le DPP a quand même perdu le Parlement ne remportant que 51 sièges, alors que le Kuomintang, lui, en a remporté 52, hein, sachant que, j'aurais dû le préciser auparavant, l'élection présidentielle est concomitante à l'élection en législative, et ce qui explique voilà, ces résultats. Donc on voit quand même que l'électorat taïwanais a souhaité ne pas forcément mettre tous ses œufs dans le même panier, et qu'il a donné une très très courte, d'un siège, très courte majorité relative au Kuomintang, sachant que le troisième parti, lui, il a obtenu uniquement 8 sièges. Ce qui est intéressant, au-delà donc de l'explication et de l'analyse de ces résultats au sens strict, c'est aussi comment ils sont perçus au sein des grandes puissances du monde, et puis aussi d'analyser que les Taïwanais marquent leur nationalisme, on vient de le dire, tout en ne voulant pas fâcher son grand voisin. Donc c'est un exercice permanent de diplomatie complexe pour eux, et qui peut être résumé par la déclaration qui a été faite par les instances taïwanaises, où Taïwan appelle Pékin à respecter le résultat des élections, quand bien même il n'est pas satisfaisant pour la Chine. C'est clairement... non pas un désaveu, parce qu'on ne votait pas pour la Chine ou contre la Chine, mais ça ne va pas dans le sens espéré par les Chinois. Donc les Taïwanais demandent bien sûr aux Chinois de respecter leurs élections, c'est la moindre des choses, et d'un point de vue pratique, économique, de toute façon, les Taïwanais... y compris le DPP, donc qui est le parti le moins pro-chinois, poursuivre une stratégie de diversification économique avec la Chine comme un des principaux, sinon le principal pays partenaire économique, mais pas que. Donc il y a bien sûr, donc il entretient autant que possible des relations avec toutes les grandes puissances, que ce soit la Russie et surtout les États-Unis, l'Europe et même le Japon, qui devient aussi un partenaire important, sachant que le Japon est dans le giron des Américains comme les Européens. Voilà. Alors, ce qui est aussi peut-être aussi intéressant, c'est d'essayer d'analyser comment ont réagi donc ces grandes puissances. Si on commence par la Russie, qui est la plus grande puissance, mais qui bien sûr, de par l'actualité, est à suivre, évidemment. Bien, la Russie, elle est dans une attitude de proximité, de rapprochement avec la Chine, en particulier dans le contexte de sa guerre contre l'Ukraine, sur laquelle elle compte sur la Chine comme un soutien, alors qu'elle, évidemment, elle a l'essentiel du camp occidental contre elle. Donc, concernant Taïwan, la Russie n'est pas forcément impliquée. Taïwan n'est pas non plus, dans le sens contraire, considère pas la Russie comme un partenaire essentiel. Bon, voilà. Donc la Russie a confirmé qu'elle était tout à fait dans la lignée de la politique chinoise sur la Russie. Concernant les pays européens, là, on est dans une attitude de prudence, voire de réticence à prendre parti, on va dire, en faveur, fortement en faveur de Taïwan, comme peuvent le faire les Américains, on va y revenir. Et donc, l'idée des Européens, c'est de maintenir leur relation avec la Chine, en particulier pour des raisons économiques et d'échanges économiques. Et garder aussi des relations avec Taïwan, mais sans en faire de trop. Et par exemple, il n'est pas question pour les Européens de signer ou de réaliser un traité de libre-échange, qui serait là clairement une avancée un peu trop importante à leur goût et qui fâcherait la Chine. Donc voilà, l'idée, la politique, la diplomatie européenne, c'est d'être prudent, de réticent à trop avancer ses pions pour ne pas fâcher la Chine. Enfin, les Américains ont déclaré par l'intermédiaire du président Biden qu'ils ne soutenaient pas l'indépendance. Là aussi, ce sont des propos pour apaiser le courroux de la Chine, qui reste leur principal concurrent en termes de puissance mondiale. On sait que les Américains protègent Taïwan d'un point de vue militaire, que les Américains sont substantiellement plus équipés militairement que les Chinois, et que c'est cette protection militaire qui permet à Taïwan de conserver sa situation telle qu'elle est et qui empêche les Chinois d'avoir des velléités d'invasion du territoire taïwanais. Voilà, donc tout ça, c'est beaucoup de diplomatie. Il y a fort à parier que les Chinois donc sont très déçus de ce résultat. Ils voient que le rapprochement définitif ne va pas se faire à court ou moyen terme, mais donc on le voit aussi si on étudie un petit peu leur réaction, qu'ils ont tout de suite essayé de gérer un petit peu les réseaux sociaux en supprimant par exemple le hashtag sur les résultats taïwanais. Qu'ils ont, pour certains, eu des propos un petit peu va-t-en-guerre. Bon, là aussi, ce sont des propos qui ne sont pas suivis, bien sûr, heureusement pour nous tous, de faits de guerre, mais qui démontrent la déception forte des autorités chinoises vis-à-vis de ces résultats. Donc c'est bien le concept d'indépendance de Taïwan qui est au cœur de la tension, sachant que aucun des trois partis ne va sur ce terrain-là, que donc on voit par le résultat de cette élection que ce n'est pas le souhait de la population que d'aller vers des velléités d'indépendance. Tout le monde sait que ça provoquerait une guerre dans laquelle, avec une issue qui incertaine évidemment, comme toutes les guerres, et qui, comme il y a même, elle serait incertaine, de toute façon entraînerait des pertes importantes à Taïwan et des souffrances évidemment importantes. Donc la Chine, j'allais dire logiquement, va maintenir ses pressions, sa pression, ne va pas à son tour entamer des mesures coercitivement militaires vis-à-vis de Taïwan, quand bien même certaines déclarations peuvent les laisser penser, mais c'est plus des déclarations encore une fois que des faits avérés. Le porte-parole du ministère de la Défense chinoise ayant proclamé l'armée populaire de libération de Chine, donc l'armée chinoise, maintient une vigilance élevée à tout moment et prendra toutes les mesures nécessaires pour écraser, le mot est quand même très fort, écraser fermement les tentatives d'indépendance de Taïwan. Donc on voit, c'est une façon d'indiquer la ligne rouge qui ne doit pas être dépassée par les belligérants et par les Taïwanais en particulier, évidemment. Depuis l'élection de dimanche, 13 janvier, la Chine a accentué sa pression diplomatique, on vient de le voir, et militaire, puisque ces dernières heures, au moment où je parle, 5 ballons chinois ont franchi la ligne médiane séparant l'île autonome de son territoire. Il a été repéré par l'armée taïwanaise, 10 avions et 6 navires de guerre dans les entourages. Donc ça, ce sont des manœuvres de pression, c'est clair. Mais qui, évidemment, pour l'instant, on reste là. Les Américains, de leur côté, comme on l'a un petit peu mentionné tout à l'heure, n'ont pas souhaité mettre de l'huile sur le feu. Et bon, au-delà de la déclaration que je mentionnais tout à l'heure, de ne pas soutenir l'indépendance par Joe Biden, et évidemment va dans ce sens. Ce faisant, les Américains se sont quand même félicités de cette élection, modérément, en félicitant le peuple taïwanais qui, pour avoir démontré une nouvelle fois la force de son système démocratique et de son processus électoral solide. Voilà la déclaration de Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain. Et ce qui, au-delà de la diplomatie, ce qui intéresse les Américains, c'est aussi de maintenir, et on l'avait mentionné dans la première émission sur laquelle nous avions consacré avec mes étudiants à Taïwan, ce qui intéresse les Américains, c'est aussi de rester un partenaire économique très important dans la guerre avec la Chine, et puis surtout dans la quête des semi-conducteurs qui permettent qui équipe tous nos smartphones, tablettes et ordinateurs. Je précise également, au-delà de ne pas soutenir l'indépendance, je rappelle la position officielle des Américains qui ne reconnaissent pas Taïwan comme un État et qui considèrent que la République populaire de Chine comme seul gouvernement légitime, mais évidemment, pour autant, ils protègent militairement et fortement l'île de Taïwan. C'est tout le paradoxe. Donc en conclusion de ce sujet qu'on aura donc beaucoup traité et tant mieux, ce qui serait vraiment catastrophique pour le monde entier, ce serait qu'il y ait un conflit dans ce détroit qui serait, et j'explique pourquoi il est observé par beaucoup de monde et que chacun se positionne par rapport à ce sujet. Un conflit dans ce détroit serait absolument désastreux pour l'économie mondiale puisque, à nouveau, je le redis, elle fournit 70% des semi-conducteurs de la planète. C'est une position incroyablement importante. Et 50% des conteneurs transportés dans le monde qui transportent beaucoup des produits que nous achetons en Occident ou ailleurs dans le monde entier transitent par ce détroit. Ça, c'est aussi, et peut-être même encore plus, une raison de s'intéresser fortement à ce qui se passe sur ce dossier chinois. Voilà, je crois qu'on a été bien complet sur ce sujet. N'hésitez pas à le commenter sur les réseaux sociaux de Radio Théolis si vous voulez apporter des nuances ou un avis sur le sujet. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle émission, cette troisième émission de Le Monde tel qu'il est. Et bien sûr, nous espérons tous que vous pourrez revenir la semaine prochaine pour nous écouter à nouveau. N'hésitez pas encore une fois à nous commenter, à nous encourager. Je remercie les personnes qui m'ont aidé techniquement pour les traductions. Et je vous souhaite une excellente semaine et j'espère avoir le plaisir de vous retrouver dans une semaine. Merci à tous et profitez bien de Radio Théolis.
Radio Théolis, la radio déconnectée à Lomé, au Togo.